Et sur Fréquence Mistral DIN 99.3, c'est l'heure de retrouver l'émission Histoire d'Archives. J'ai le plaisir d'accueillir M. Jean-Christophe Labadie, qui est directeur des archives départementales des Alpes de Haute-Provence. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Jean-Marc.
Alors aujourd'hui, vous nous avez une activité, une actualité riche pour cette émission, et pour ce troisième jeudi du mois.
Eh bien, écoutez Jean-Marc, effectivement, nous sortons de l'hiver, donc et avec la fin de l'hiver, nous relançons évidemment nos programmations. Alors nous avons en fait effectivement au mois d'avril trois événements importants, deux conférences et une inauguration. Alors j'ai commencé par les conférences. La première, donc, ça sera celle qui sera prononcée par Antoine Debecq, qui est un historien très connu dans le milieu, qui est d'ailleurs aussi critique de cinéma. Il a, je crois, même été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, qui est enseignant dans l'École normale supérieure, et qui viendra nous parler des Crétins des Alpes. Alors c'est vrai que ça paraît un peu comme ça, dit comme ça, un peu étonnant, puisque c'est un sujet qui est souvent traité d'ailleurs sous un angle plutôt médical. Donc là, cette fois-ci, ça sera évidemment l'approche d'un historien qui est un spécialiste. C'est ce que j'ai découvert aussi, donc en préparant cet événement, un spécialiste des Alpes, spécialiste de la marche. C'est un grand marcheur. Il avait d'ailleurs publié un ouvrage il y a quelques temps, quelques années, sur justement des pérégrinations donc dans les Alpes, en reprenant évidemment ce qui avait déjà été écrit par ses prédécesseurs et en vivant cette démarche. Puisque pour le coup, donc il viendra donc nous parler des Crétins des Alpes, donc avec une approche, donc je vous le disais, très particulière, qui est aussi une forme, une sorte de réhabilitation un petit peu de ces crétins qui étaient montrés. Alors moi, vous savez, on a des collections de cartes postales aux archives départementales. Je visualise une carte que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Vous aviez un couple de basalpins, entre guillemets, donc deux personnes très handicapées, très âgées, et dont l'une était victime effectivement d'un goitre absolument énorme. Alors c'est pas parce qu'on avait un goitre qu'on était crétin. Tous les goitreux n'étaient pas crétins. Mais vous voyez, c'était une image, on disait à l'époque, pittoresque. Et le commentaire qui accompagnait d'ailleurs cette image, qui était donc celui qui écrivait cette carte postale à une autre personne, à son destinataire, était évidemment pour se moquer de ce couple, en disant, voyez, regardez ce beau couple, évidemment, une antiphrase pour mettre en exergue justement cette dimension très particulière du crétin basalpin, ou du couple de crétins basalpins. Voilà, donc là, c'est l'inverse. Il reprend ce problème. L'approche n'est pas du tout médicale, puisque ce n'est pas son sujet, mais c'est vraiment une approche tout à fait intéressante. Et évidemment, j'invite toutes les personnes à venir donc voir, écouter cette conférence qui aura lieu donc le 18 avril à 18h aux archives départementales. La deuxième conférence, c'est celle qui, alors on sort du sujet, mais on reste toujours en Provence, évidemment, qui est celle qui sera prononcée donc le 25 avril, le jeudi 25, donc à 18h aussi aux archives départementales, par André Poggio, qui est un auteur et qui travaille spécialement sur le provençal et évidemment sur les érudits provençaux, et en l'occurrence, un personnage tout à fait local, qui est Victor Liotto, dont d'ailleurs nous détenons le fonds aux archives départementales, qui est un fonds très important, qui concerne autant la vie locale que, évidemment, la langue provençale, les filibriges, etc. Voilà, donc ça, c'est la deuxième conférence. Et puis, surtout, nous allons inaugurer notre nouvelle exposition. Nous sortons du cycle du centenaire de la guerre de 14-18, qui a duré donc 4 ans pour nous, puisqu'on a proposé un projet chaque année. On quitte, évidemment, ce domaine pour avancer dans le temps, pour les années 50, en fait, en l'occurrence, avec donc une exposition qui sera donc inaugurée le mercredi 10 avril, à 18h, aux archives départementales, et qui s'appelle, qu'on a appelé, l'affaire point l'URSS, 4 août 1952.
Et pour la transition entre la guerre 14-18 et l'affaire Dominici, vous n'avez pas laissé trop de plumes ?
Non, alors en fait, en réalité, je continue à travailler sur la guerre de la Première Guerre mondiale pour un projet qui verra peut-être le jour en 2020, 21 ou 22, autour des monuments aux morts. En fait, je suis en train de faire un inventaire exhaustif, enfin le plus exhaustif possible, des monuments aux morts dans le département. Donc à la fois les monuments civiques, monuments communaux, mais aussi les monuments, les plaques qu'on trouve dans les églises, et puis aussi toutes les petites choses qui ont été faites aussi et qui ont la forme d'un tableau, d'une liste, etc., qu'on retrouve aussi dans les mairies parfois. Donc voilà, donc j'essaie de faire ce travail-là, mais ça c'est un travail de longue haleine. Là je suis en train de transcrire tous les noms des morts qu'on trouve sur les monuments. Donc là, j'ai bien avancé déjà quand même. Voilà, mais ça, c'est pour un projet un peu plus lointain. Donc oui, du coup, je n'ai pas vraiment quitté la guerre, mais évidemment, on ne pouvait pas proposer une nouvelle exposition derrière 4 ans d'exposition sur le sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de traiter donc, de cette affaire, qui à l'origine, d'ailleurs, était plutôt un sujet... En fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt travailler sur les années 50, donc j'avais un projet d'exposition autour de ça. En fait, on avait avec Laure Fradec un projet de faire par décennie, vous savez, les années 50, les années 60, les années 70, etc. Donc de faire des petites expositions, de préférence itinérante, pour un petit peu rappeler l'histoire comme ça, locale, l'histoire assez récente. Et puis finalement, vous savez, on a eu aussi une opportunité. C'est quand le tribunal a été totalement refait, hein, donc réaménagé. Donc toutes les parties anciennes ont été détruites pour faire place à, évidemment, aux locaux qui sont évidemment flambant neufs, puisqu'ils ont à peine 2 ans, je crois. Donc on a eu l'opportunité de récupérer les meubles de la salle d'assises. Hein, et donc, du coup, on s'était dit, avec les autres agents, pourquoi ne pas mettre en scène justement cette affaire à partir du mobilier donc qu'on avait récupéré.
Et entre la place du Récollet et le nouveau tribunal, vous avez fait vous avez mis tout ce qui concerne le mobilier dans une salle bien précise pour faire des photos. Vous avez fait une reconstitution.
Alors en fait, en réalité, je vais vous expliquer notre démarche. En fait, vous savez comment naît une exposition un peu. Voilà. Au départ, nous allons au tribunal pour les archives. Quand vous avez un déménagement de cette sorte, où en fait tout le tribunal déménage, hein, puisqu'il a été au boulevard Gassendi pendant quelques temps, en attendant donc le réaménagement, il y a le problème des archives. Or, vous savez que les tribunaux produisent une quantité considérable d'archives. Donc au départ, avec les agents des archives, nous allons au tribunal pour régler le problème des archives. Il y a la directrice du greffe qui nous appelle, qui est très, très dynamique, qui a une équipe qui est là et qui décide, évidemment, qui doit même résoudre ce problème. Donc on y va pour cette raison-là. Et puis quand on regarde le tribunal, vous savez, on se dit, tiens, on pourrait récupérer aussi quelque chose, vous voyez, puisque beaucoup de choses, elles sont détruites. Et on a récupéré en particulier du mobilier pour les archives. Et ça a commencé comme ça. Donc on a récupéré et qu'on a d'ailleurs installé aux archives départementales, en particulier donc des systèmes mobiles, vous savez, pour gagner de la place. Donc on les a récupérés, on a récupéré les bases en fait, hein. Puis on a construit par-dessus nos propres travées, nos propres épis pour gagner de la place. Donc c'est la deuxième étape. Puis ensuite on s'est dit, mais c'est dommage, on a une belle salle, pourquoi ne pas récupérer certains éléments? Et alors, vous savez, moi, je travaillais en même temps sur, parce qu'en même temps on préparait une journée d'études et je travaillais sur les bâtiments administratifs au moment de la Révolution et de l'Empire. Or, le tribunal, qui est à l'origine donc un couvent, hein, donc les Récollets, va devenir donc un bâtiment administratif sous la Révolution, et puis ensuite, après avoir été aussi servi au bureau de la préfecture, va devenir donc effectivement un tribunal. Donc ça m'intéressait, le bâtiment m'intéressait en tant que tel, vous voyez. Et donc j'avais d'ailleurs demandé à mes agents de découper dans les tranches de papier peint, vous savez, parce que vous savez, le système des papiers peints, on les met les uns sur les autres, on les superpose. Donc on a même récupéré, vous voyez, des tranches de papier peint pour essayer, vous voyez,
le carbone 14
voilà,
du tribunal.
Voilà, c'est le carbone 14 du tribunal, en fait, voilà. Hein, pour voir un petit peu quels étaient les aménagements, sachant que nous, aux archives départementales, nous avons des documents, évidemment, qui évoquent ces questions-là. Donc on a récupéré, donc, du papier, etc. Puis on s'est dit, bah, c'est dommage aussi, il y a les meubles. Voilà. Alors, on s'est dit que on va récupérer des meubles. Mais la question, on ne récupère pas des meubles pour des meubles. À quoi ça pouvait nous servir? Et donc on s'est dit à ce moment-là, effectivement, que c'était dommage de ne pas pouvoir récupérer ces meubles qui ne sont pas vraiment, enfin qui sont des meubles, mais sans être vraiment des meubles, puisque le mobilier d'une salle d'assises, c'est pas très utile, vous voyez, dans un domicile, hein, ça aide pas beaucoup, à part les sièges, à part les bancs, le reste.
Le barreau.
Oui, voilà, vous pouvez pas, c'est pas grand chose, vous voyez, qui peut vous servir. Donc on s'est dit, au fond, récupérons ces meubles. Avec l'idée, évidemment, à l'arrière-pensée, que peut-être nous allions effectivement les utiliser pour évoquer l'affaire de l'URSS. Hein, voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé à démonter. Alors au début, on démonte que le box. Et on se dit, bon, il n'y a que le box d'intéressant, puisque l'idée, c'est de... Si on faisait un jour un travail dessus, c'est de garder une trace. Oui. Et donc, vous savez, c'est la partie pour le tout. On garde le box, ça suffit pour évoquer le tout. Et puis en démontant le box, on a regardé le reste, on pourrait évidemment récupérer les bancs, parce que les bancs, ça c'est intéressant, ça peut servir. D'ailleurs, aux archives départementales, quand vous venez aux conférences, certains sont assis sur des bancs qui viennent du tribunal. Voilà. Donc les bancs qui sont sur les côtés. Voilà, donc on a récupéré les bancs. Puis après, on s'est dit, au fond, il ne reste plus grand-chose à récupérer, vous voyez, et donc du coup, on a tout démonté, on a décompé même les boiseries et tout, pour justement suggérer cette affaire. Et puis après, de fil en aiguille, les années 50 se sont transformées. Donc les années 50, c'est devenu le sujet est devenu tout doucement l'affaire de l'URSS. Parallèlement, je travaillais aussi sur... vous savez, on avait fait un travail, une exposition sur l'alimentation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous étiez venu d'ailleurs. Hein. Donc je travaillais sur la taille des bases alpins, vous savez. Donc c'est un sujet d'ailleurs sur lequel je travaille toujours. Mais c'est un travail de longue haleine, il faut trouver des sources, c'est pas évident. Alors il y a évidemment les sources militaires, hein, on mesure les personnes, mais pour les périodes antérieures, voilà. Donc je travaillais là-dessus. Dans une idée, vous voyez, sur une longue durée, vous voyez, 19e, 20e siècle. Au fond, ce qui m'intéressait, c'était, pour les années 50, toute cette longue période d'exode rural hein, qui avait commencé dans les années 1840 et qui se terminait dans les années 50, puisque c'est à partir des années 50 que le département voit sa population se redresser. Voilà, donc j'étais dans cette dynamique-là. Et puis voilà, et puis quand on travaille sur un sujet, puis cette affaire-là est tellement importante, et on m'en parlait tellement, que je me suis dit, peut-être, ça fait quand même, je suis dans ma 9e année aux archives départementales, je me disais peut-être qu'il est temps, voilà, avec les éléments dont je dispose, avec le mobilier, qu'il est peut-être temps de faire quelque chose. Voilà. Après, est venue l'idée de reconstituer, donc, effectivement, ce tribunal. Ce que découvriront, donc, les personnes qui viendront voir notre exposition, en fait, elle est fondée sur cette reconstitution-là. Actuellement, mes agents, depuis maintenant presque quelques semaines, travaillent sur justement la reconstitution. Alors, évidemment, on n'a pas la place aux archives départementales. Hein, c'est 15 mètres, le tribunal, c'est 15 mètres sur 9. Ce qui n'est pas très grand. Hein, c'était un tout petit tribunal, en fait, hein, une toute petite salle d'audience. Nous, on est plutôt à 14 mètres et 8 mètres, voyez. Donc, du coup, on ne peut pas mettre tous les bancs, mais on peut mettre tout le reste.
Entre la salle de conférence et là où il y a des expositions, comme pour l'aviation, la guerre 14-18, vous allez faire la conférence dans une salle, l'exposition dans une autre ?
Voilà. En fait, on a toujours notre salle de conférence qui est derrière. Hein, donc ça restera la salle de conférence. Mais effectivement, c'est dans notre espace d'exposition, donc où il y avait la guerre de 14-18, où on installe effectivement les meubles. Alors en fait, on est en train actuellement de construire un mur. Un vrai mur, hein, un mur, donc à partir d'une structure métallique, donc qui mesure 3,60 m, je crois, parce que l'idée, c'est qu'on rentre dans le tribunal. Donc on avait récupéré la porte de la salle des assises. Voilà, je ris parce que quand j'y pense, je me dis c'est un travail un peu étonnant, vous voyez, quand les gens viennent aux archives, voient mes agents travailler sur ces... Voilà, je trouve ça, c'est presque sidérant, vous voyez. Donc on a, pour le moment, on a déjà installé la porte, la grande porte hein, de la salle des assises. Les agents sont en train de mettre du plaque-le-pâtre pour faire le mur, en fait, hein, donc un mur qui est très épais, et puis qui restera, je pense d'ailleurs, hein, qui servira justement à baliser notre espace d'exposition. Et puis derrière, donc, il y a donc les meubles. Mais pour mettre les meubles, le problème, c'est que les meubles, ils ne sont pas à ras le sol, en fait. Il y a des estrades, hein, il y a différentes hauteurs. Les juges sont les plus hauts. Vous voyez, donc, deux agents, en fait, ont construit donc, des estrades pour justement remettre en situation hein, donc, le côté des juges, hein, le côté de la défense, hein, de l'accusé et de la défense, et le côté des jurés, du jury populaire qui est de l'autre côté. Voilà, donc tout ça est en train de se construire.
Et côté journaliste, parce qu'il y avait beaucoup de monde
alors,
également.
Les journalistes étaient partout. Enfin, ils étaient partout. Ils n'étaient pas derrière les juges, mais ils étaient effectivement devant. Et quand on regarde les photos d'époque, on constate qu'effectivement, il y a très très peu d'espace pour les gens qui viennent témoigner, hein, qui viennent les experts, etc. Pour parler, vous avez en fait un tout petit espace qui est devant, qui est au centre en fait, hein, devant la barre des témoins. Où il y a une table où on a posé les pièces, vous savez, les scellés, en fait, hein, voilà, les pièces à conviction. Et il y a même le vélo, hein, qui était une pièce à conviction, qui est posé, qui est contre le meuble où sont installés les juges. Ouais. Et dernière chose, il n'y a pas que les juges, il n'y a pas que les avocats, l'accusé, ses avocats, etc., ou les jurés, les journalistes, le public, hein, il y a aussi un public, mais il y a aussi des invités. Et derrière les juges, donc sur le long du mur, vous aviez toute une série d'invités qui étaient installés, dont Jean Giono, hein, qui donc assiste, je crois, quasiment aux 11 jours. Alors je n'ai pas vérifié, hein, peut-être qu'il a manqué un jour ou deux, mais enfin en tout cas qui est très présent lors des 11 jours du procès et qui est donc installé derrière les juges. Voilà, donc c'est tout à fait étonnant. Hein, c'est vraiment, enfin, on a l'impression quand même d'un très. Alors j'ai oublié évidemment l'avocat général, hein, qui est évidemment aussi là parce que c'est lui. Qui porte l'accusation, voilà. Donc, mais tout ça sera à découvrir, hein, avec un système de silhouettes. On a construit des silhouettes, sera à découvrir donc pour cette exposition.
Avant de retrouver l'affaire Gaston Dominici, un petit peu de musique. Vous êtes venu avec un disque de Kate Bush, c'est l'album 50 Words for Snow. Donc, nous allons retourner dans l'hiver et vous avez choisi Snowflake.
Voilà, en effet.
I can see horses.
Alors, cette affaire Gaston de Dominici, d'août 52, Jean-Christophe Labadie, eh bien, ça a eu un impact quand même assez retentissant sur notre micro-région. Et puis, le fait de, que vous disiez qu'il y avait des invités, c'était comme si c'était un spectacle. On allait à un spectacle pour dans ce tribunal.
Oui, en effet, oui, c'est tout à fait étonnant même, hein, quand on voit ça de nos yeux, de notre époque, en fait, avec les yeux de notre époque. Il y a effectivement quelque chose qui est presque du domaine d'un lieu mondain, vous voyez, un lieu où il faut être. Vous avez des invités, donc, comme je disais, donc Jean Giono, mais ce n'est pas le seul. Hein, il y a Salacrou, qui est un écrivain aussi, qui est donc membre d'ailleurs de l'Académie Goncourt. Il y a aussi des préfets, leur épouse, donc je crois qu'il y a l'épouse du préfet des Bouches-du-Rhône, je crois qu'il y a le préfet de Vaucluse avec son épouse, etc. Donc il y a toute une série d'invités. Il y a aussi Maximilien Vox, qui est un personnage important à l'époque, hein, au niveau local et au niveau même national. C'est un spécialiste des caractères d'écriture, hein, qui a d'ailleurs créé des caractères. Voilà, donc il y a tous ces invités. Et d'ailleurs, vous avez le préfet qui est, on a un courrier qui écrit donc au président du pour le remercier justement d'avoir accepté, hein, d'autoriser donc des invités donc à assister à ce procès qui effectivement au niveau local est évidemment le procès du siècle, enfin peut-être même le plus grand procès des assises. Au moins pour le siècle, mais voire peut-être pour les deux siècles depuis que le tribunal était installé, donc au couvent des Recollets. Donc c'est vraiment une affaire tout à fait particulière, et c'est vrai que le procès est le point d'orgue de plus de deux ans en fait d'enquête, hein, puisque l'affaire c'est donc le 4 août 1952, le procès de Gaston de Dominici, parce qu'il a déjà eu un procès, mais en correctionnel, l'année précédente, celui de Gustave de Dominici. Mais le procès de Gaston de Dominici, c'est novembre 1954. Donc, entre les deux, vous avez eu un battage médiatique très, très important. Alors, évidemment, vous savez que le temps médiatique est un temps très particulier, qui concentre à certains moments et puis qui dilue à d'autres. Quelquefois, on a l'impression que l'affaire est oubliée. Puis, elle est relancée en permanence par une série de choses, et en particulier les aveux en novembre 1953 de Gaston de Dominici, après avoir été accusé. Toutes ces péripéties, en fait, hein, c'est une partie importante, enfin c'est la deuxième partie, en fait, qui nous a intéressés dans cette exposition. La première, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est la reconstitution. La seconde, c'est cette affaire, c'est à la fois le traitement journalistique et la vision qu'ont les uns et les autres des Bas-Alpins. Vous voyez, ça rejoint ma préoccupation, hein, qu'on évoquait avec les Crétins des Alpes tout à l'heure, ou qu'on évoquait avec la taille des conscrits et plus généralement la taille des Bas-Alpins. On revient en fait sur mes thématiques en fait, hein, de départ. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu nourrir évidemment ma réflexion. Mais j'ai eu une chance aussi. Vous savez, il faut avoir un peu de chance aussi, c'est de voir, enfin de m'apercevoir que finalement, ce qui est dit dans les années 50, c'était déjà dit dans les années 30. En fait, parce que dans les années 30, vous avez d'importantes affaires criminelles, un septuple meurtre, un quintuple meurtre, entre autres. Hein,
dans le département.
Dans le département, oui, bien sûr. Donc d'ailleurs, un des auteurs sera guillotiné à Digne. Donc vous avez une dizaine d'années où il y a comme ça une accumulation, évidemment ce sont des coïncidences, il n'y a pas de lien entre les événements, mais il y a une accumulation de crimes, et vous avez un journaliste, Pierre Cise, qui est un journaliste parisien, qui publie dans Paris Soir une série d'articles, durant l'hiver d'ailleurs, sur la montagne où l'on tue, hein, donc ça c'est le titre générique, et qui,
Accrocheur,
voilà, ouais. qui reprend tout à fait, alors qui feuilletonne, hein, vraiment, c'est qui reprend donc toutes ces affaires les unes après les autres avec une thèse. La thèse, c'est en gros, ce sont des crimes de dégénérés, il y a l'atavisme, il y a l'alcoolisme parental, des personnes abandonnées, des personnes. Et alors, il est venu donc faire un reportage, hein, sur le terrain. Et donc il raconte ses rencontres, certaines de ses rencontres, hein, et en particulier celle où il frappe à une porte, et une porte qui ne veut pas s'ouvrir, il insiste, et une vieille dame lui ouvre et il la regarde. Il est étonné évidemment qu'elle n'ait pas répondu, elle l'accueille évidemment très froidement, et il appelle la momie parce qu'elle est toute enrubannée pour se protéger des bouches, hein, c'est ce qu'il dit. Voilà, donc il parle de cet accueil-là, et alors il quitte cette ferme, il continue sa marche, et il tombe sur une autre personne qui ricane, qui se moque, et qui explique qu'il est en train de tuer la source qui alimente en fait cette ferme qu'il vient de quitter, pour que cette femme voit ses fleurs, ses rosiers mourir, vous voyez, voilà. Et après, il rencontre deux frères qui n'ont qu'une...
En plein dans Pagnol.
Ah, mais c'est même totalement... vous avez l'impression. Alors, c'est ce qu'il dit, hein. On est dans un autre monde, en fait. Ce n'est pas le monde policé, vous voyez, ce n'est pas le monde civilisé.
Et puis les Parisiens, comme... Voilà. Anciennement, actuellement, ils voilà. ont toujours ce alors, même
alors,
regard
alors,
sur
un je, peu je
sur.
Ne porte, je ne porterai pas de jugement pour aujourd'hui parce que je travaille sur les archives, voilà. Mais voilà, donc vous avez un regard qui est très particulier, qui est très acéré. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent d'écriture. Hein. C'est très très bien écrit. C'est presque justement, c'est une qualité d'écriture qui est presque celle d'un roman. Il y a des rebondissements, voilà. C'est un reportage, vous savez, quand c'est un reportage très bien écrit, c'est toujours très agréable à lire. Donc il faut imaginer les lecteurs parisiens de Paris Soir, hein, qui lisent évidemment ces reportages. Et qui, alors, c'est intéressant parce qu'il dit, avant il y a la montagne, vous savez, la montagne plaisir, hein, la montagne où on fait du ski, etc. Puis donc il y a la montagne où l'on tue. Et cette montagne où l'on tue, c'est justement celle de ces régions reculées. Alors ce qui est intéressant... Il y a évidemment tout ce qui était dit dans les années 30, mais cette histoire de ces affaires sont reprises dans les années de sortir de la guerre par un commissaire justement qui a enquêté sur ces crimes de l'entre-deux-guerres. Donc il relance un petit peu, vous voyez, le côté, mais avec un aspect plus technique. Vous voyez, c'est moins littéraire, c'est moins descriptif, on est plus sur les affaires elles-mêmes, hein, sur la partie policière. Mais ce qui est intéressant, c'est que Persis couvre aussi l'affaire de Minissi. Et donc il reprend en fait tout ce qu'il a expliqué dans les années 30 pour expliquer l'affaire de Medici. Et à tel point d'ailleurs que Jean Giono visiblement lui a écrit une lettre pour justement lui reprocher son positionnement. Alors il connaît, hein, Jean Giono le connaît, puisque il apparaît qu'il s'était rencontré dans les années 30. Hein. Je pense que Persis, donc c'est un journaliste important, avait dû aussi vous voyez, rencontrer les uns et les autres. Et Giono étant une personne, évidemment, une personnalité dans le département, il l'avait sans doute rencontré. Puis vous savez, Giono, il avait la réputation d'être un très bon connaisseur, hein, des campagnes basalpines, enfin des campagnes provençales et basalpines. Donc voilà, donc il l'avait rencontré. Giono, donc, visiblement, lui a écrit une lettre un peu courroucée, vous voyez, et lui, il lui répond. Alors, on a la réponse, nous, hein, on n'a pas la première lettre de Jean Giono. Il lui répond en disant « Je ne change rien. Ce que j'ai écrit dans les années 30, je l'affirme toujours aujourd'hui. Je ne change pas une ligne, vous voyez. » Pour vous dire qu'en fait, pour lui, finalement, l'affaire de Minissi, c'est exactement, c'est la continuité. On est dans le mouvement, vous voyez, de ce qu'il avait pu discerné dans les années 30. Et donc ça, c'est évidemment, c'est important parce que, vous savez, c'est comment se construisent les représentations. Alors évidemment, le journaliste parisien, quand il vient dans les années 30, il a sans doute déjà, il a évidemment une représentation de ce que pourrait, de ce qu'est pour lui un paysan basalpin. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en diffusant ces représentations, évidemment, il renforce ou il crée, chez d'autres, hein, qui ne connaissent pas les Alpins, hein, il crée évidemment un système de représentation. Hein, c'est ça qui m'intéressait. Et quand dans les années 50, l'affaire de Minissi, parce qu'on n'est pas très loin, vous voyez, les années 30, les années 50, c'est 20 ans. Hein. Alors certes, il y a eu la guerre entre les deux, hein, qui est quand même un événement majeur, et qui d'ailleurs intervient aussi dans l'affaire de l'URSS. Mais quand Persis revient, toujours aussi grand journaliste, toujours écrivant dans des grands quotidiens parisiens, ben finalement, quand il reprend ses thèses, il continue, vous voyez, à diffuser ses représentations. Pour lui-même, c'est la confirmation de ce qui... c'est en gros ce qu'il dit à Giono. Il dit, en gros, cette affaire-là confirme ce que j'avais déjà vu, entendu, discerné, analysé, vous voyez, dans les années 30. Et donc c'est ça qui était intéressant dans cette affaire, c'est cette vision des élites, enfin, des éditeurs. Je mets des guillemets parce que c'est une forme, hein, c'est un journaliste et quelques journalistes, sur justement cette paysannerie, sur ces régions qui sont en plein exode rural, qui sont en train de continuer de se vider de leurs habitants, hein, qui paraissent effectivement des espaces intermédiaires, où c'est pas la montagne, effectivement, oui, on fait du ski, hein, la montagne où on s'amuse, comme disait Pierre VI dans les années 30, c'est pas cette montagne-là, hein, c'est vrai, ou celle où on travaille aussi, c'est la montagne, des déshérités, des isolés, parce qu'il y a aussi, dans son argumentation, c'est l'isolement. Hein, pour lui, l'isolement crée justement cette violence. Hein, et donc, quand il y a l'affaire de l'URSS, alors on aura un peu de mal à en parler en quelques minutes, hein, mais ça sera...
l'occasion de revenir.
Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que c'est une affaire pour nous qui va rester, l'exposition va rester au moins jusqu'à la fin 2020, hein, parce que compte tenu de son importance et puis compte tenu de l'investissement qu'on y a fait en termes de travail, de sueur, de moyens, d'activité, évidemment on a envie qu'elle reste le plus longtemps possible, voilà. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais quand cette affaire, ce 4 août, cette nuit du 4 août se déclenche, évidemment, elle résonne, vous voyez, c'est une affaire qui résonne, mais qui a aussi évidemment d'autres dimensions. Et entre les années 30 et l'affaire, il y a eu la guerre. Et vous savez que dans les interprétations, hein, on fait intervenir cet élément-là, hein, l'épuration, la résistance communiste, etc. Et puis il y a évidemment, on a quand même changé d'époque, hein, les années 50, c'est aussi, un changement d'époque, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu la fin du monde rural d'une certaine manière, vous voyez, hein, la mécanisation, le machinisme, etc., le développement urbain, la reconstruction, les Trente Glorieuses, vous voyez, donc on est dans une autre mécanique, donc tout ça joue, mais pour Pierre VI et pour d'autres, hein, parce qu'il n'est pas le seul, il y a d'autres journalistes qui emboîtent le pas, on est encore dans une société archaïque. Oui. C'est ça qu'on a voulu évoquer. Alors, on l'évoque moins dans l'exposition, parce que dans l'exposition, c'est les meubles. Hein, ce sont les meubles. Ce sont aussi, évidemment, des éléments didactiques. Hein, on explique, on montre aussi des objets. On va montrer des unes de la presse, vous voyez. On va montrer des documents d'archives. J'ai récupéré hier le registre d'écrou. Donc à la maison d'arrêt de Digne, où il y a évidemment au moment où au moment 53, hein, en novembre 53, au moment donc où il fait ses aveux entre guillemets, eh bien il est écroué donc à la maison d'arrêt, donc on a sa description, ses tatouages, enfin, oui, c'est tout à fait particulier, son entrée, sa sortie d'ailleurs, hein, il quitte Digne pour faire des examens médicaux à Marseille, au Beaumet, hein, il part au Beaumet. Voilà, donc on a une série d'objets, et puis on a un livre, hein, qui sera disponible à partir de l'inauguration, justement sur cette affaire. Alors c'est un livre, le texte est assez court en fait, hein, c'est un livre qui fait 160 pages où le texte est assez court, mais où il y a beaucoup d'annexes, donc en particulier la reproduction de cette lettre de Pierre VI à Jean Giono, mais aussi d'autres éléments, en particulier les grandes affaires des années 30, hein, mais ça j'aurai l'occasion d'en parler. Voilà. Simplement pour terminer, à l'issue de donc, notre inauguration, donc mercredi 10, il y aura une lecture d'archives, vous savez que nous faisons aussi des lectures d'archives, qui sera justement consacrée non pas à l'affaire de l'URSS, parce qu'on a décidé de ne pas en parler en termes archivistiques, hein, parce que le but, c'est justement, j'ai fait très attention de ne jamais consulter le dossier. Hein, je me suis refusé à le faire. C'est un dossier qui est consultable sur dérogation. Donc j'ai considéré que, justement, pour ne pas...
être influencé.
Oui, pour ne pas être influencé, pour ne pas, justement, rentrer dans cette fameuse polémique qui, pour moi, ne m'intéresse pas, qui est de savoir... je n'ai pas jugé, vous voyez, l'affaire. Vous savez, les historiens et les archives ne sont pas des juges. Donc pour éviter ce problème, j'ai justement décidé de ne pas consulter. Donc on aura donc une lecture d'archives sur les affaires qui ont précédé, donc justement beaucoup d'affaires, alors de toute nature, mais aussi sur ces affaires des années 30, hein, qui avaient beaucoup inspiré Pierre VI.
Et juste en deux mots, le 4 août 52, qu'est-ce qui s'est passé avant que vous nous quittiez pour temps.
Alors le 4 août 52, donc dans la nuit du 4 au 5 août 1952, vous avez donc hein, ce couple donc d'anglais avec leur fille Elisabeth, hein, donc les Drummond, hein, donc Anne, l'épouse d'Elisabeth, qui sont donc assassinées au bord de la route à Lurs, peu à quelques dizaines de mètres de la ferme des Dominici. Cette affaire, en fait, est découverte évidemment le lendemain et immédiatement, mais vraiment immédiatement, de par, alors beaucoup, pour beaucoup de raisons, mais on en parlera une autre fois, devient une affaire nationale, voire internationale, puisque ce sont des Anglais. Et la personnalité de Drummond n'est pas étrangère à ce succès, car c'est un savant connu, réputé en Angleterre. C'est une personnalité, ce sont en fait des membres de la jeune trie, ce sont des petits nobles, en fait. Hein, c'est Sir Drummond, hein, donc qui sont assassinés au bord de cette route. Et donc immédiatement se déclenche une sorte de quelque chose qui ressemblera presque à un cataclysme médiatique hein, dès le 5 et le 6.
En tout cas, rendez-vous le mercredi 10 avril aux archives départementales.
En effet.
Pour l'affaire.
J'invite tout le monde, évidemment, à venir pour voir notre reconstitution.
Merci.
Merci.